Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Voici les titres. Attaque contre la MONUSCO à Kinshasa. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, condamne fermement ses comportements et rappelle que les violences contre le personnel de la MONUSCO peuvent constituer un crime de guerre. Face à cette situation, le gouvernement congolais appelle la population à l'apaisement. En sport, les Léopards de la RDC ont perdu hier la petite finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud à la séance des tirs au but. Cette compétition se clôture aujourd'hui par la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Notre invité ce matin est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya parle de l'opération Springbok pour la sécurité des Goma et des Sacs contre le M23 dans la province du Nord Kivu, tout en rassurant la population de ces coins sur la volonté des autorités congolaises de mettre fin à cette guerre en collaboration avec la MONUSCO. Mesdames et messieurs, bonjour. Grâce à Mzati Massanzi vous présente ce journal mis en onde par Jean-Claude Nsia Lamona Makengo Nsoalou. Ce journal part de Kinshasa où la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC condamne les attaques visant le personnel des Nations Unies hier samedi dans la capitale congolaise. Bintou Keïta annonce sur son compte X que plusieurs véhicules de la MONUSCO ont été incendiés. Pour elle, je cite, affaiblir la MONUSCO, c'est renforcer les forces négatives qu'il combat avec ses partenaires congolais FRDC. Et PNC. Et les attaques contre la MONUSCO impactent négativement notre appui au FRDC. Fin de citation. La chef de la MONUSCO rappelle que les violences contre le personnel des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. De son côté, le gouvernement de la RDC condamne ces actes de violence contre le personnel et véhicules de la MONUSCO et de certaines ambassades ainsi que les installations de certaines chancelleries hier ici à Kinshasa. Le gouvernement congolais appelle la population au calme. C'est ce qui ressort de la réunion urgente de sécurité convoquée par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, hier même dans la soirée. Noëlla Luzitukabambi pour les détails.
Le ministre de l'Intérieur souligne que, je cite, « Le président de la République fait constater que, quand bien même nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. » Peter Kazadi rappelle que les installations et les véhicules des diplomates étrangers sont inviolables et que le personnel de la MONUSCO est protégé par des conventions. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est protégé par le droit international, rappelle Peter Kazadi. Au cours de cette réunion urgente de sécurité, le ministre de l'Intérieur fait remarque que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des lois de la République. Et selon lui, les manifestants de ce samedi 10 février n'ont pas respecté le régime sur les manifestations. Nous demandons à la population de rester calme parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe dans l'est du pays. Le front se trouve dans l'est de la RDC. L'ennemi se trouve dans cette partie du pays. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons le renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays, conseille le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi.
Noëlla Luzitukabambi. Et puis, le gouvernement de la RDC rassure la population de Goma et ses environs sur sa volonté de mettre fin à la guerre d'agression et aussi sur son assistance aux nombreuses personnes devenues vulnérables à la suite de ces conflits. C'est en substance les propos du ministre de la Communication et Médias à Radio Kapi. Concernant l'opération dénommée Springbok pour la sécurité de Goma et des Sake, Patrick Mouyaya parle de la collaboration entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO. On l'écoute.
C'est tout à fait normal dans un contexte où la population a soif de sécurité, qu'il y ait une partie de l'opinion qui soit non pas sceptique ou qui souhaite que l'on fasse davantage. Il faut comprendre cette opinion. Ici, il faut simplement s'assurer que cette opinion, lorsqu'elle s'exprime, elle s'exprime pour se faire entendre, ça veut dire de manière pacifique. Nous, nous considérons comme gouvernement que notre responsabilité première est d'assurer la protection et la sécurité de nos populations et nous faisons de notre mieux pour que cela se fasse. Comme cela a été dit au terme du Conseil supérieur de la Défense la dernière fois, les dispositions ont été prises pour que Goma ne tombe pas entre les mains des terroristes, mais c'est pas seulement Goma, mais c'est aussi toutes les localités ou parties du territoire qui sont occupées par ces ennemis de la paix. C'est aussi un message de solidarité et de compassion pour toutes les populations congolaises qui sont victimes de cette agression, Le gouvernement continue de suivre et de travailler. D'ailleurs, hier, le Premier ministre en Conseil de ministres revenait encore sur l'appui humanitaire que nous devons impérativement assurer pour nos populations dans cette partie du territoire. Ici, nous allons demander à nos populations de Goma de faire confiance au gouvernement, au président de la République, et tout est mis en œuvre pour que la paix puisse être restaurée.
Le porte-parole du gouvernement congolais notait que l'opération dénommée Springbok a aussi été au centre de la rencontre hier à Goma entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le commandant par intérim de la force de la MONUSCO. Les échanges ont tourné autour de la coordination des actions contre le M23 dans le cadre de cette opération. Par ailleurs, dans la province du Tanganyika, le chef de la milice Apanapale, connu sous le nom de 5-5, et trois de ses hommes ont été tués jeudi dernier par les FARDC. Plusieurs sources concordantes indiquent que c'était au cours d'une altercation entre les forces armées de la RDC et ses miliciens sur les sites miniers de Lulia, dans le groupement Bakalanga, secteur nord Lukuga, territoire de Nyunzu. Le point avec Paul Mounanga.
De son vrai nom, Amuri Kasongo, dénommé 5-5, il était le chef de la milice Apanapale. Il était lieutenant de l'ex-chef milicien Mundusi, fondateur du groupe armé Apanapale, mais il est actuellement sous le coup du processus de désarmement et de mobilisation, indiquent plusieurs sources. 5-5 semait la terreur dans le groupement Bakalanga, territoire de Nyunzu. Ce jeudi, ces miliciens ont fait incursion dans le site minier Lulia qui est tenu par des Chinois. Des sources signalent qu'ils voulaient ravir de l'or auprès de ces Chinois. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika indique que les éléments FARDC qui sont sur place à Lulia sont intervenus. Au cours de cette altercation, signale Dieudonné Kasaka, 5-5 et 3 de ces hommes ont été tués, un élément FARDC a été blessé et quelques armes des miliciens récupérées. Face à cette situation, des sources rapportent que les Chinois ont évacué le site minier de Lulia ce vendredi, craignant des représailles des miliciens Apanapale après la mort de leur leader. Kalemi Paul Mounanga, Radio Okapi.
Direction la province du Congo central où le tribunal de paix de Madimba, territoire portant le même nom, ne siège pas. Et ce, depuis les dernières mises en place au sein de la magistrature. La notabilité de ce coin qu'il affirme indique que tous les juges de cette instance ont été mutés sans pour autant être remplacés par d'autres. Conséquence, plusieurs personnes croupissent en détention sans jugement. Le président de la notabilité de Madimba demande au conseil supérieur de la magistrature de remédier à cette situation. Magloire Lufulu, joint par Nana Plurichimambu.
Nous les notables du territoire de Madimba, nous sommes au regret de faire le constat amer selon lequel les dernières nominations au niveau de la magistrature n'ont pas tenu compte de notre territoire. Dans le sens que, au tribunal de paix, nous n'avons que le président du tribunal de paix qui a été dépouillé de tous les juges. Il est seul. Et tout seul, il ne peut pas siéger. La conséquence logique, c'est que les gens croupissent dans des prisons, faute d'être jugés. Et il y en a qui peuvent même mourir ou qui en meurent déjà parce que n'ayant pas été entendus. Ça, c'est en matière pénale. Mais la crainte, c'est qu'en matière civile, comme nous sommes caractérisés par des conflits perpétuels des terres, les gens risquent de se rendre justice. Et la justice populaire, c'est ce que nous craignons au plus haut point. Donc, nous interpellons le Conseil supérieur de la magistrature afin de penser à nous et amener un palliatif à cette situation qui n'a fait que trop durer.
La ville de Kinshasa risque de disparaître au fil des années par les crues du fleuve Congo si rien n'est fait en termes de planification. C'est ce que pense le sénateur Didier Mumengi. Il a dit ce samedi à Kinshasa au cours d'une séance d'exposition photo intitulée « Urbanisation sauvage et dérèglement climatique, la crue du fleuve Congo déshabille Kinshasa ». Organisée par Nextcore, la société éditrice du média en ligne Actualité.cd, cette activité vise à sensibiliser le public aux conséquences dramatiques de ce phénomène. On écoute Didier Mumengi.
Il faut savoir que les crues du fleuve Congo ont connu un paroxysme, un pic en 61. C'était la première fois qu'on a vu Kinshasa quasiment sur le bord d'être englouti. Et depuis lors, il y avait une périodicité de 10 ans. Chaque 10 ans, on déplorait ces phénomènes. Mais depuis 2019, ce n'est plus 10 ans. 2019, 2023, c'est moins de 5 ans. Alors, il y a risque que la périodicité des crues se rétrécisse et nous entraîne vers d'une sorte d'écrue apocalyptique qui risque de faire disparaître cette ville de Kinshasa. D'où la nécessité que nous marquions un stop, et c'est cela ma proposition, ça a été la proposition des sénateurs de la ville de Kinshasa, pour que les intelligences urbanistiques, les intelligences géographiques, toutes les intelligences qui participent à l'aménagement, à la construction de la ville, se mettent autour d'une table et donnent à cette ville un plan master. Nous avons proposé la perspective de 2036, parce qu'en 2036, la ville aura l'âge de 70 ans. Il faut qu'on fasse le point. Qu'avons-nous fait de la vitrine de la République démocratique du Congo?
D'autres panélistes, notamment les professeurs Jean Chrétien Ekambo et Yokali Moudaba, ont parlé du rôle crucial du journalisme dans la compréhension et la communication des changements climatiques urbains, en mettant l'accent sur les responsabilités des médias face aux défis climatiques. L'actualité, c'est aussi le sport. La finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations se clôture ce dimanche avec le choc qui oppose les Super Eagles du Nigeria aux éléphants de la Côte d'Ivoire à partir de 21h, heure de Kinshasa, au stade Alassane Draman Ouattara de Bimpe. Les léopards de la RDCE ont perdu hier le match de la petite finale face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud à la séance des tirs au but 5 contre 6. Vanessa Kongolo.
Absente à la CAN au Cameroun et pas du tout favori, la RDC termine la 34e CAN en Côte d'Ivoire dans les derniers carrés. De quoi rendre fiers les sélectionneurs Sébastien Desabre.
Forcément, il y a une forme de déception, mais elle n'entache en rien le super parcours qu'on a pu faire à la CAN et ce que les joueurs ont donné durant les 5 semaines. Voilà, après, si on n'est pas 3e mais on est 4e, c'est parce qu'on n'a pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions qu'on a eues, parce que je pense que sur les 90 minutes, on a été meilleur que notre adversaire.
Élu homme du match, malgré la défaite, Dylan Batumbisika garde le point positif de cette CAN.
Je suis content bien sûr de ce trophée. Je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Je pense qu'on doit être fiers de notre parcours jusqu'ici. On a fait une grande CAN. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas parié sur nous arriver jusqu'au dernier carré. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit retenir. C'est le positif qu'on doit garder.
Le plus jeune du groupe, Brian Bayeye, envoie une pensée à la population de l'Est du pays.
Ça arrive, on va bosser pour à l'avenir être plus tranchant. Mais je suis fier de mes coéquipiers, fier de tout le monde. On a fait un beau parcours. Je tiens aussi à avoir une petite pensée pour l'Est du pays qui souffre. Et on est tout cœur avec le Congo, on espère que tout ça va s'arrêter.
A noter que la RDC a livré 7 matchs pour 5 matchs nuls, une victoire, une défaite et termine à la 4e position.
Merci à vous Vanessa Kongolo. Et du côté des supporters congolais, les sentiments sont partagés entre satisfaction et déception. On écoute quelques-uns dans ces propos recueillis une fois de plus par Vanessa Kongolo.
C'est une équipe qui nous a fait rêver, nous supporters, dès le départ, mais ses rendements ne sont pas à la hauteur de nos attentes. À la fin, on s'est rendu compte que c'est une équipe qui dysfonctionne, les joueurs ne se connaissent pas. Son résultat n'est pas à la hauteur des attentes d'un grand pays comme le Congo. Vous avez des tirs mal cadrés, vous avez des passes non raffinées. On est sorti 4e sur le podium, mais c'est une déception. Dans l'ensemble, parce que nous, on s'entendait que 50 ans après la dernière CAN remportée par les Léopards, que cette année, en 2024, on devrait remporter cette CAN et la ramener à Kinshasa.
Je dirais que l'essentiel est déjà fait. C'était quoi d'arriver quelque part, hein, un peu plus loin. Donc nous sommes arrivés à la demi-finale. Je suis fier d'être congolaise, fier de mon équipe, fier de nos fauves.
Moi, personnellement, je n'ai pas été déçu. Je vis une équipe des Léopards qui s'est débrouillée. D'ailleurs, on s'attendait à ces niveaux-là. On a joué la petite finale et nous, on a joué, sauf qu'on n'a pas eu cette chance-là de marquer. Quand même, nous avons découvert des nouveaux joueurs qui se sont débrouillés.
Actualité internationale.
Au Cameroun, ce 11 février, comme de coutume depuis 58 ans, est dédié à la jeunesse. Samedi soir, le président Paul Biya a délivré son traditionnel message à ses jeunes compatriotes. Faisant le constat d'une jeunesse de plus en plus tentée par les choix de l'émigration, Paul Biya a mis en garde contre cette tendance. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essaient de s'installer au Cameroun, déclare le président camerounais. L'Iran veut se positionner en Afrique comme une puissance dans tous les domaines. Isolé sur la scène diplomatique mondiale, l'Iran célèbre ce 11 février le 45e anniversaire de la révolution, une révolution islamique basée sur un suivi extrême de l'islam pour les questions politiques et religieuses. Depuis 4 décennies, cette diplomatie a multiplié les accords et actions sur le continent africain et engagé ces derniers mois, notamment au Sahel, une nouvelle offensive.
L'invité.
Il s'agit du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, parle de l'opération Springbok pour la sécurité des Goma et des Sake dans la province du Nord Kivu. Il rassure aussi la population de ces coins sur la volonté des autorités congolaises de mettre fin à cette guerre et d'assister le vulnérable. Suivez. Patrick Muyaya, bonjour.
Bonjour.
La ville de Goma est menacée depuis quelques jours par les agresseurs. Les FARDC y font face avec la MONUSCO. Dites-nous, comment ça se passe?
Écoutez, le vice-premier ministre, ministre de la Défense qui a séjourné hier sur place nous a plus ou moins fait le compte rendu de comment les forces, nos forces avaient promptement réagi le jour où notamment des bombes sont tombées à Goma, où il y a une tentative de prendre Sake, et dans l'engagement qui a été fait par nos forces armées, il y a eu évidemment une intervention de la MONUSCO. Et les opérations se sont plutôt bien déroulées.
Justement, vous venez de parler de la MONUSCO. Quelle est la part ou la contribution réelle de la MONUSCO dans ces efforts communs?
Je ne saurais pas vous donner des détails opérationnels parce que ça relève de la stratégie militaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, au-delà de l'opération Springbok qui avait été prévue, une planification qui avait été faite avec nos services pour nous assurer que nos populations sont protégées.
Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer la population que vous disposez des moyens logistiques nécessaires pour faire face à l'ennemi?
Écoutez, cette guerre, nous la préparons, nous nous organisons pour nous doter, nous équiper, avoir les moyens qu'il faut pour nous assurer que nous sécurisons notre territoire. Évidemment, je ne serai pas en mesure de vous dire tout ce qui relève du domaine militaire, mais nous avons pris nos dispositions pour cela.
Comment vous répondez à ceux qui accusent les FARDC ainsi que la MONUSCO d'inefficacité, surtout en ce qui concerne l'opération Springbok?
Écoutez, c'est tout à fait normal dans un contexte où la population a soif de sécurité, qu'il y ait une partie de l'opinion qui soit non pas sceptique ou qui souhaite que l'on fasse davantage. Il faut comprendre cette opinion. Ici, il faut simplement s'assurer que cette opinion, lorsqu'elle s'exprime, elle s'exprime pour se faire entendre, ça veut dire de manière pacifique. Nous, nous considérons comme gouvernement que notre responsabilité première est d'assurer la protection et la sécurité de nos populations et nous faisons de notre mieux pour que cela s'efface.
Et quel message, en définitive, que vous lancez à toute la population, particulièrement à celle du Nord Kivu, notamment des Goma?
Écoutez, comme cela a été dit au terme du Conseil supérieur de la Défense la dernière fois, les dispositions ont été prises pour que Goma ne tombe pas entre les mains des terroristes, mais c'est pas seulement Goma, mais c'est aussi toutes les localités ou parties du territoire qui sont occupées par ces ennemis de la paix. C'est aussi un message de solidarité et des compassions pour toutes les populations congolaises qui sont victimes de cette agression. Le gouvernement continue de suivre et de travailler. D'ailleurs, hier, le Premier ministre en Conseil de ministres revenait encore sur l'appui humanitaire que nous devons impérativement assurer pour nos populations dans cette partie du territoire. Ici, nous allons demander à nos populations de Goma de faire confiance au gouvernement, au président de la République, et tout est mis en œuvre pour que la paix puisse être restaurée.
Monsieur le ministre Patrick Muyaya, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, était et notre invité du journal. Le journal qui touche d'ailleurs à sa fin, coordonné et supervisé par Noëlla Luzitu-Kabambi. Vous pouvez réécouter ces radiojournals sur www.radiokapi.net. Merci et excellent dimanche chez vous.